Merci d'avoir choisi la première, il est 7h48. Je ne suis pas médecin, mais je... Nous avons tous entendu cette phrase au moins une fois ces derniers mois, souvent suivie de contre-vérités qui s'affichaient comme du bon sens. Et je crois que nous avons été nombreux aussi à ne pas savoir parfois à qui se fier lorsque des voix de médecins se contredisaient. Alors pourquoi est-il si facile de tromper nos esprits quand il s'agit de science? Est-ce que ça existe vraiment, la vérité scientifique? Eh bien, pour répondre à ces questions, notre invité de ce matin est quelqu'un qui réfléchit à ces sujets depuis longtemps. On a le plaisir d'accueillir sur la première le physicien et docteur en philosophie des sciences, Étienne Klein. Bonjour Étienne.
Bonjour, bonjour, bonjour la Belgique.
Vous enseignez, vous dirigez un prestigieux laboratoire de recherche, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur les sciences, vous êtes aussi le producteur de la conversation scientifique sur France Culture et vous venez de publier ce jeudi L'urgence du long terme aux éditions de l'Observatoire, un texte à la fois utile, intéressant, empathique vis-à-vis de nous, de ce qu'on a vécu ces derniers mois, mais aussi très agréable à lire, avec lequel on se sent plus intelligent. Donc ça c'est quand même très bien, un texte dans lequel vous analyser notamment le développement de ce que vous appelez le populisme scientifique pendant la pandémie. Alors de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que le populisme scientifique pour vous?
Écoutez, c'est la combinaison de plusieurs choses. Par exemple, nous avons tendance à croire plus vrai les idées qui nous plaisent. Et donc quand on entend dire quelque chose qui va dans le sens de ce qu'on pense a priori, eh bien l'esprit critique se met un peu en berne et on a tendance à l'accepter sans aller y voir de plus près. C'est aussi un effet que des psychologues qui s'appellent Dunning-Kruger ont appelé justement l'effet Dunning-Kruger, c'est le fait que pour se rendre compte qu'on est incompétent, paradoxalement, il faut être compétent. Quand on aborde une nouvelle discipline, par exemple l'épidémiologie, ça a été le cas pendant cette épidémie.
Oui, on a vu de nombreux épidémiologistes.
Voilà. On est un peu épidémique, on a l'impression que c'est simple, il y a une sorte de virus comme la grippe, et donc on réagit à partir de nos connaissances spontanées. Et c'est en travaillant, en écoutant des spécialistes, qu'on finit par se rendre compte que le sujet est plus compliqué que ce qu'on avait imaginé. Et là, on perd en assurance et on la regagne petit à petit à mesure que notre compétence s'accroît. Mais au départ, on se croit compétent parce qu'on n'a pas assez de connaissances pour se savoir incompétent. Et puis, il y a aussi le fait qu'on a tendance à accorder du crédit à certaines personnes plus qu'à d'autres. Et lorsqu'elles parlent, on prend pour agent comptant ce qu'elles disent. Il y a un terme savant qui désigne ça, c'est l'ipsédixitisme. C'est un peu pédant de le rappeler, mais ça veut dire que dès que le maître l'a dit, eh bien, on considère que c'est vrai. Et là encore, on oublie un peu l'esprit critique. Et enfin, il y a aussi une tendance qui est que nous avons volontiers envie de parler avec assez d'assurance de ce qu'on ne connaît pas. C'est ce qu'on fait tous les jours. Mais en matière de science, c'est un peu plus délicat parce que la science, elle s'est construite contre le bon sens. Aujourd'hui, tout le monde parle du bon sens sans d'ailleurs vraiment le définir. Donald Trump, qui est champion du monde en la matière, ne cesse d'invoquer son feeling, son instinct pour traiter d'à peu près n'importe quel sujet. Et le bon sens, évidemment, c'est très, très précieux dans la vie courante. Mais quand il s'agit de science, il faut s'en méfier parce qu'il nous invite à penser, par exemple, que la Terre est plate ou des choses comme ça qui sont démenties par la science. Par exemple, si je regarde des pierres qui tombent, j'observe que les plus grosses, les plus lourdes, tombent plus vite que les plus légères. Et bien, Galilée nous expliquait que non, la gravité fait tomber tous les corps, quelle que soit leur masse, exactement à la même vitesse, ce qui n'est pas ce que nous voyons. Et donc, il y a dans la science quelque chose qui nous oblige à
nous méfier de nos intuitions.
Voilà, et à penser contre notre cerveau, c'est-à-dire à exercer vis-à-vis des pensées qui nous semblent les plus évidentes, une sorte de regard critique qui vient les mettre à l'épreuve pour voir si elles sont capables de résister à des arguments qui les contredisent.
Alors Étienne Klein, dans votre livre, dans votre texte, ça fait une trentaine de pages, publié aux éditions de l'Observatoire, vous écrivez aussi « En matière de science, tous les discours ne se valent pas, certains sont moins vrais que d'autres ». Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de vérité scientifique ?
Bon, il y a des vérités scientifiques qui se trouvent démenties par la suite de l'histoire, qui deviennent fausses. Par exemple, au XVIIe siècle, on croyait que la chaleur se diffusait par la combustion d'un corps qu'on appelait le phlogiston, et ce corps n'existe pas, Lavoisier l'a montré, et donc il y a des vérités scientifiques qui deviennent fausses. Maintenant, il y a des vérités scientifiques qui résistent au temps, mais qu'on est obligé de formuler d'une autre façon. Par exemple, si je vous dis, comme Galilée, que la Terre tourne autour du Soleil, ça laisse entendre que le Soleil occuperait dans l'univers une position très particulière, qui serait une sorte de référentiel privilégié. Or, Einstein nous a montré au début du XXe siècle que tous les référentiels sont équivalents, de sorte qu'il n'y en a aucun dont on pourrait dire qu'il est plus spécial que les autres. Donc la phrase « la Terre tourne autour du Soleil » demeure vraie, mais si on voulait tenir compte des révolutions de la physique, il faudrait la formuler autrement. Et donc oui, il y a des vérités scientifiques, mais elles sont vivantes, c'est-à-dire que la façon de les énoncer doit tenir compte de l'évolution des connaissances.
Alors, ce que vous êtes en train de faire là, par exemple, et que vous faites aussi souvent dans vos livres, aussi avec vos sites internet, c'est de la vulgarisation scientifique. Vous nous rendez accessible le savoir. Ça veut dire quand même que même quand on n'est pas scientifique, on peut accéder, on peut comprendre. Mais comment on fait pour exercer quand même un esprit critique dans ce domaine-là ?
Écoutez, moi j'ai fait de la vulgarisation, comme vous l'avez rappelé, depuis très très longtemps, mais je pense que je me suis trompé. En fait, je crois que j'avais, quand j'étais plus jeune, l'idée que quand on dit les choses de façon très claire, quand on les a travaillées, quand on prétend les avoir bien comprises, alors on est armé pour les dire d'une façon qui soit compréhensible par tous. Mais j'avais négligé dans cette approche le fait qu'il y a ce qu'on appelle des biais cognitifs qui font que même si on entend dire quelque chose qui est juste, notre façon de la recevoir va être contaminée par nos a priori, et la méconnaissance que j'avais de ces biais cognitifs a fait que j'ai été sans doute imprudent, et si je devais refaire certaines choses, je pense que je les ferais autrement. Et l'esprit critique, si vous voulez, il est un peu comme le cholestérol, c'est-à-dire il y a le bon et le mauvais. L'esprit critique, c'est un esprit critique qu'on doit d'abord exercer contre soi, c'est-à-dire on doit essayer de voir s'il n'y a pas des arguments qui nous permettraient de dire non à notre propre pensée. Et ça, c'est le bon esprit critique, à mon avis. Celui qui, à partir d'arguments qui peuvent être complètement faux ou à l'emporte-pièce, vient critiquer tout ce qu'on entend, n'est pas le bon esprit critique. Penser, disait un philosophe français qui s'appelle Alain, penser, c'est dire non à sa propre pensée pour voir s'il est capable de résister. Et c'est cet esprit critique qu'à mon avis, aujourd'hui, il faut renforcer, parce qu'en effet, on entend trop souvent dire que tout est relatif, tout se vaut, et je pense que ça n'est pas vrai. Par exemple, si vous prenez l'exemple d'un traitement médical pour une maladie, la question de son efficacité fait qu'à la fin, si la recherche est bien menée, on sera capable de dire s'il est ou non efficace, s'il a des effets secondaires qui peuvent être dangereux ou pas. Ce n'est pas une question qui dépend de l'opinion. Et j'ai trouvé que pendant cette crise, en tout cas en France, je ne sais pas comment ça s'est passé en Belgique, mais on a voulu que la science rentre dans le rang, c'est-à-dire se mettre sous la coupe de l'opinion. Et par exemple, on a organisé des sondages pour savoir si tel médicament était efficace ou pas. On a demandé aux Français s'il était efficace ou pas, alors que personne n'en savait rien. Et j'ai été étonné de voir qu'une majorité de gens ont répondu oui à la question, oui, c'est efficace, avant même que quiconque en sache quelque chose, parce que les protocoles de recherche n'avaient pas encore abouti.
Oui, la science, ce n'est pas une question d'avis, vous nous le rappelez. Vous nous rappelez donc qu'il faut exercer son esprit critique, mais peut-être avant tout vis-à-vis de soi-même. Et il y a aussi quelque chose de très beau dans ce livre que vous publiez, donc, qui s'appelle « L'urgence du long terme ». C'est aussi un texte qui donne de l'espoir, puisque le second grand sujet de ce texte, vous parlez, vous nous en touchez un mot peut-être rapidement parce qu'il nous reste une minute, mais du retour de l'idée de futur. De quoi vous voulez parler quand vous parlez de cette idée ?
Ah ben c'est simplement que si on fait un petit exercice de mémoire, si on essaie de se rappeler de ce dont on parlait il y a 3 mois, en tout cas en France, on parlait beaucoup de l'effondrement à venir, de la fin du monde presque, ou bien on se disloquait dans une sorte de présentisme, on ne parlait que de l'actualité présente, et le futur était laissé en jachère intellectuelle, en lévitation politique, on ne parlait pas du long terme. Et puis, bizarrement, pendant le confinement, on a entendu beaucoup de médias, des groupes de réflexion, s'interroger sur ce que sera le monde monde de demain avec l'idée que le monde de demain serait différent du monde d'hier. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, puisqu'en quelques semaines, l'idée de la fin du monde a été remplacée, détrônée par l'idée d'un monde de demain. Comme si le fait d'être dans la catastrophe, parce qu'il s'agissait d'une catastrophe, évacuait l'idée d'un effondrement total, et les gens se posent la question, mais qu'est-ce qu'on voudrait que le monde de demain soit, et en quoi devrait-il être différent?